Retrouvez Abdel Malik et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter.
France Inter.
La différence.
15h et presque 4 minutes sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Voilà, je suis en train de lire les raisons de la colère, et je crois que ça correspond tout à fait avec l'époque actuelle. Il y a quelques passages, comme à la page 60 où il parle des actionnaires, et il dit il y a des années qu'on ne peut plus rien y faire pousser, mais ces enfants de putain derrière leur bureau, ils coupent les gens en deux pour avoir leur marge de bénéfice. Ils les coupent en deux tout bonnement, l'endroit où qu'on vit, c'est ça qui est la famille. On n'est pas soi-même quand on est empilé dans une auto tout seul sur une route. On n'est plus vivant. On a été tué par ces enfants de putain. Il y a des petits passages comme ça qui résument bien la situation à laquelle on est en ce moment. En aparté, un deuxième petit message. Voilà, on a un enfant handicapé et on essaye de lui monter un bassin thérapeutique. Mais on a quelques difficultés avec les fonds à retenir. Alors je vends une moto. Si on veut me contacter, je suis au 06 47 71 44 29 ou 06 07 06 98 47. Merci à toi et merci à toute l'équipe et à bientôt.
Hier, le PS s'est réuni pendant une journée et une nuit, presque 24 heures d'affilée, pour pondre, écrire, éditer et enfin présenter son grand projet pour 2012. Quatre axes principaux, éducation, jeunesse, santé, logement. Faire du collège une continuité avec l'école primaire, que les enfants, enfin, sachent lire et écrire. Alors, il prévoit une grande réforme fiscale, une révolution de pensée où l'État garantirait un projet de collectivité, mais aussi le libre choix individuel, afin de se libérer de l'affrontement classique, style lutte sociale, tout en encourageant le progrès et la justice sociale. C'est pourquoi, et là c'est la victoire assurée, ils augmenteront les salaires. Waouh ! Et c'est tellement consensuel qu'ils sont même pas d'accord entre eux. C'est dire la force de ce parti conquérant. Oh, Sarkozy doit trembler de rire, quoi.
Bonjour Daniel, bah écoute, je viens d'écouter ton émission sur Jaurès. Alors je suis pas tout le temps d'accord avec toi parce que je te trouve un peu trop de gauche, enfin tes émissions un peu trop gauche-gauche, mais je te remercie beaucoup par contre pour ta question. Qu'est-ce qui reste de Madame Aubry, de Madame Royal par rapport à quelqu'un comme Jaurès ou comme Blum? Voilà, merci pour ta question Daniel, et puis même si je suis pas toujours d'accord avec toi, j'adore t'écouter quand même. Anne du Morbihan.
Jaurès expliquait. Les anciens disaient « plaignez l'esclave, car il n'a que la moitié de son âme ». Eh bien, il en est ainsi des nations esclaves, des nations serves. Leur âme est mutilée, leur génie est incomplet. Et nous avons besoin, pour la grande œuvre de libération ouvrière et d'organisation humaine, que tous les cerveaux aient toute leur puissance, que tous les individus aient toute leur force de pensée, et que toutes les nations aient leur force originale, leur génie et leur faculté propre de développement. Voilà. Eh bien, pour être fidèle à ce propos de Jaurès, je crois qu'il faut éteindre nos postes de télévision, écouter un peu plus ton émission, Daniel, nous regrouper, nous réapproprier nos organisations syndicales et politiques et combattre l'ennemi de toujours, car il ne faut pas s'y tromper. Jaurès, ils l'ont tué hier pour l'Union nationale contre les droits ouvriers et démocratiques, et ils cherchent aujourd'hui encore à le faire une deuxième fois, toujours et pour les mêmes profits. Salut camarades.
Je viens d'écouter l'émission sur Jaurès, intéressante, mais je pense qu'il manque quand même une réponse à la question que pose Daniel à Charles Sylvestre. Pourquoi a-t-on tué Jaurès? Et ce qui manque, c'est l'analyse de classe de ceux qui ont voulu que Jaurès disparaisse, à savoir que les capitalistes français et les capitalistes allemands souhaitaient que la jeunesse française et la jeunesse allemande, le prolétariat français, le prolétariat allemand, s'entretue pour perpétuer le pouvoir de ces mêmes capitalistes. Je crois que cette dimension-là doit être soulignée. C'était Jean-Louis Assolignac. Près de Limoges, au revoir.
Salut Daniel. Aujourd'hui, 11 novembre, je voudrais rendre hommage à un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques années. Je participais au tournage d'un documentaire sur les polis de 14. Et on avait rencontré un des derniers poilus de 14. Il avait 108 ans, le monsieur, il s'appelait Léon. On l'avait rencontré en province, dans sa petite maison, sans argent, sans rien, complètement démuni, avec son fils qui avait 80 ans. On était tous là, l'équipe technique, la caméra, et puis on essayait de lui faire raconter l'horreur, parce que c'était le dernier poilu vivant, qui avaient participé au Chemin des Dames. C'est toujours assez paradoxal d'aller voir des vieilles personnes comme ça qui, depuis longtemps, longtemps, ont perdu la mémoire pour essayer de refaire un travail de mémoire, donc ils ne nous disaient rien. Ils ne se rappelaient plus de rien, le pauvre homme. On galérait un peu là, à essayer d'obtenir quelque chose, et puis à un moment, on a vu son œil pétiller. Et puis il s'est mis à chanter la chanson de Crown. Voilà, c'est tout ce qu'il avait retenu de cette tuerie épouvantable. Et là, il y avait quatre personnes derrière la caméra qui chialaient. On chialait tous. Parce que c'était quand même assez terrible de voir cet homme qui avait dû peut-être rencontrer la personne qui avait écrit cette chanson de Crown. Voilà. C'était un monument aux morts vivants qu'on avait devant nous. Voilà. Et puis pour la petite histoire, ce monsieur était retraité depuis 1949 de la SNCF. Voilà. Donc il aura fait 58 ans de retraite. Je l'oublierai jamais. Il est décédé il y a 2 ans et je l'oublierai jamais.
Chanson de Crown, la chanson de Crown. Bouleversant souvenir que celui-là, mais bouleversant souvenir aussi pour celui qui vous parle, puisque mon père, mon propre père, j'ai eu l'occasion de raconter à plusieurs reprises, connaissait, nous a fait connaître cette chanson de Crown que nous vous avons fait connaître à pas mal d'entre vous il y a déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette émission, cette fameuse émission sur la chanson de Crown. Et bien sûr, on pensera à cette phrase géniale attribuée à Anatole France, qui résumait d'un seul trait ce que fut cette guerre. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. C'est absolument magnifique et c'est absolument la vérité sur cette grande boucherie du capitalisme que fut cette guerre de 14-18. Aujourd'hui, célébré partout, célébré aussi la mémoire des mutins en même temps, alors même que je vous parle de Goma, dans l'est du Congo. Et là, il y a eu une autre guerre mondiale, qu'on a appelée la guerre mondiale africaine, qui est passée à peu près inaperçue dans notre France, dans notre Europe. 4-5 millions de morts entre 1998 et 2003 dans cette région. Une autre grande guerre qui n'est pas tout à fait terminée, dont les métastases sont autour de nous, là d'où je vous parle, au siège des Nations Unies à Goma. Voilà, aujourd'hui donc, la chanson de Crown. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, qui traitent de l'émission d'hier que vous avez visiblement appréciée et dont le thème, vous avez compris, était Jaurès.
Je souhaitais dire à Daniel Mermet que j'avais trouvé son émission d'aujourd'hui extrêmement intéressante sur Jaurès et sur ce qui se rapporte à ce journalisme de cette époque. Je suis une personne de 76 ans. J'avais un père qui a fait la guerre de 14. Merci beaucoup pour cette émission. Elle était très réussie.
L'association Ciné-Débat de Granville vous donne rendez-vous le lundi 15 novembre à 20h15 au cinéma Le Select pour le Rendez-vous des quais, fameux film de Paul Carpita, interdit par la censure pendant 35 ans. Le film sera suivi d'un débat avec Pascal Tessot, auteur du livre Paul Carpita, cinéaste, franc-tireur. Le film est on ne peut plus d'actualité sur fond de lutte sociale pour le pacifisme et le rapprochement entre les peuples.
Bonjour à tous, ici Corinne du repère de Caen et l'établissement Le News. Je vous informe qu'un repère bis ou un repère exceptionnel aura lieu vendredi 12 novembre à 20h30 où nous accueillons Bernard Friot qui est donc passé sur l'antenne de Daniel, l'enjeu des retraites au News, 15 boulevard Leroy à Caen.
On n'en sort plus de cette guerre de 14, elle est toujours là. Il y a un type en 14 qui a dit « Je leur ai juste repris la longueur de mon corps. » Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est ? C'est de la terre, ça.
En parlant de l'Arc de Triomphe, qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.
Ça fait le bonheur.
Ça fait le bonheur de Le Pen.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Georges Mermet. Là-bas, si j'y suis, la chanson de Crown.
Flight number 2, arriving from New York.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre tâche est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot, même sans tambour, même sans trompette. On s'en va là-haut en baissant la tête.
Les bananes sont enterrées là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on prêche. Mais c'est fini, car les fonctions
La chanson de Craon, la chanson des révoltés, c'est cet air que murmuraient les poilus dans les tranchées du chemin des Dames en avril 17. L'offensive nivelle était tellement absurde, tellement indigne, qu'une partie de la troupe s'est mutinée, refusant de monter au front, de mourir pour mourir.
Ce ne sont pas des traîtres. On ne peut pas donner ce nom-là à ces gens-là. On ne peut pas. Et je ne le dis pas en tant que mère, je le dis en tant qu'homme. Et moi, c'était mes grands-pères, c'était mes grands-oncles, c'était des gens comme moi qui avaient mal quand ils se coupaient, qui étaient heureux quand ils buvaient une bonne tasse de café. Vous voyez, non, il n'y a pas de traîtrise là-dedans. Il n'y a pas de traîtrise. Il y avait un moment de ras-le-bol.
Ces gens-là étaient tous soldats qui s'étaient battus remarquablement. Hein. C'est tous soldats qui n'ont jamais refusé de se battre face à l'ennemi, mais qui ne pouvaient pas accepter qu'on les fasse remonter. Alors que ce n'était pas préparé, que c'était une pure bûcherie. La mutinerie, c'est vraiment un cri de dignité humaine. De la part de gens, ce n'est pas possible. Un être humain, ce n'est pas de la boucherie.
Il a parlé par les
Après Français. L'échec de l'offensive Nivelle, Pétain reprend le commandement des armées et met de l'ordre dans la troupe. Plus de 3000 condamnations sont prononcées à l'encontre des mutins, dont 550 à mort. Finalement, une cinquantaine seront exécutées. 80 ans plus tard, l'évocation de leur mémoire glace encore le chemin des Dames, un chemin de la gloire aussi pour ceux qui sont tombés sous la mitraille française.
C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Collante et saoulante, mélodie mélancolie et jolie comme la guerre, selon Apollinaire, qui fut blessé au front et au front sous les frondaisons du bois des buttes. Une étoile de sang me couronna jamais, écrivait Guillaume, prémonition des poètes. 50 ans avant, il songeait, c'est sûr, au Tché, le même rouge au front étoilé. Guillaume et Ernesto voisinent sur l'étagère de nos panthéons imaginaires. Collante, la valse lente de terre, d'acier, de merde et de sang. Dans la pente, j'ai eu la joie, le bonheur de parler là avec Yves Gibeau, à vif, toujours, marchant au bord des larmes et des labours, tâchant d'arracher quelque chose à la guerre et murmurant cette chanson pour danseurs de sanglots sur le chemin des Dames. La chanson de Craon qu'il faut prononcer crâne, comme les crânes qui remontent encore, toujours et toujours à la surface. Crâne de Craon, on est pris de tendresse soudain, pour la chair des disparus, des crânes de Craon, chair de ces hommes si jeunes et si hommes. Une barbe, à peine, un duvet, une peau rose de gamin qui recouvrait les crânes de Craon. C'est le visage de Georges, mon père, enfant. C'est la France qu'on évite. C'est la France qu'on évite, la punie où l'on va aujourd'hui. Celle des cimetières militaires. Celle où les oiseaux volent sur le dos pour pas se mettre le moral en ruine. Mémoire collante, mémoire qui hante. Pourquoi revenir encore, encore ici, alors que je sais d'avance au retour le goût presque louche d'amour et de dégoût dans la bouche. Haine, somme, marne, morne paysage d'un néant tenace. Le désespoir, exactement, morne, oui, morne pleine, pleine, toujours de bombes à retardement, d'obus, de grenades à gaz, fragments de mâchoire, boutons de capote, chaussures, tibias, gamelles que la terre se refuse à avaler. Yves Gibault, bouleversant, m'avait montré un petit encrier et j'imaginais Georges, mon père, écrivant à son frère François, 60 rue de la Villette à Paris, « Tout va bien ici, je te salue et te charge d'embrasser nos chers parents. » François mourut, Georges vécut et fit contre tout monument de mort un monument de vie. 8 enfants dont je suis, fragment d'une mémoire fantôme, dans cette terre maudite, presque un quart de notre France ravagée. Terre des tranchées, toujours visible aujourd'hui, on peut passer le doigt sur le bord de la plaine. Mais, marchant comme nous le faisons, ne sommes-nous pas, là, des voleurs de détresse, nous habillant des lumières des supplices de nos pères, visant la première place sur le podium des victimes. La boucherie la plus infâme, l'armée, le pouvoir, fit tuer en 10 jours 155 000 petits soldats français. Oui, un crime contre l'humanité, contre l'humain, contre l'amour sur ce chemin des dames. Serions-nous trop encombrés de mémoire, d'une mémoire qui nous empêcherait de voir le présent? La seule mémoire indispensable est celle qui maintient vivante la source du droit. C'est beau. Mais là, il y eut un sursaut contre la barbarie, un miracle contre ce mal normal, une fragile chanson. Ils ont mis leur crosse à l'envers, ils ont refusé de marcher, ils ont refusé de mourir, ils se sont révoltés parce que c'était la seule façon de sauver quelque chose d'humain et sans doute aussi quelque chose de la France. Le beau geste fut de nous dire que la désobéissance est une chanson d'amour, que la liberté est une valse lente, que l'insoumission se danse.
Pendant 4 années de furie, l'Europe s'est acharnée à se détruire. Elle a sacrifié la plus belle de ses richesses, la plus irremplaçable, une jeunesse ardente, la plus belle jeunesse du monde, la jeunesse civilisée.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civelots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Traon, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Traon, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Ça c'est la plaque au monument aux morts de Crane. Et là-dedans, il y a un Julien Janter, c'est-à-dire c'est votre ancêtre.
Oui, c'est un grand-oncle. Oh. C'est le frère de mon grand-père. Et il a été tué tout près d'ici, au ravin du Paradis, tout au début de la guerre. Mais quand son régiment est passé par Crane, tout au début, il est passé par Crane. Et mon grand-père est venu au-devant de lui, lui a porté son paquetage sur à peu près 1,5 km. Du bas du village jusqu'à la sortie du village de Crane. Il est passé par son village. Et à la sortie du village, il y a un officier qui lui a dit « Allez gamin, laisse ton frère maintenant, retire-toi des rangs. » Et il a été tué 3 jours après au ravin du Paradis ici.
Quel âge ?
Il avait 27 ans, 2 enfants.
Et il y a des milliers de noms comme ça sur des centaines et des milliers de monuments aux morts en France.
Toutes les familles ont été touchées. Toutes les familles ont perdu quelqu'un pendant ces événements-là. Les familles.
Qu'est-ce qui est écrit là ? Tous unis comme au front. C'est beau, hein ? Tous unis comme au front, les pauvres. Oui. Les pauvres. Et puis là, vous avez un bouquet de fleurs de coquelicot, de marguerite et de bleuet, et de blé, hein, qui rappelle la.
Oui.
Et puis la chanson de Craon là-bas.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Craon, la chanson de Craon, chanson longtemps, très longtemps interdite, évidemment interdite en 14. Cette chanson fut celle des mutineries, fut celle de l'insoumission des soldats après l'offensive Nivelle du 16 avril 1916, une des plus grosses imbécilités de l'histoire militaire, de l'histoire de notre pays, et à l'intérieur d'une guerre qui fut une des probablement des plus effroyables aventures de l'histoire des hommes. Et là, au bout de 155 000 morts du côté français en 10 jours, donc 15 500 bonhommes par jour au minimum, alors ils se sont révoltés, il y a eu des mouvements de révolte et des mutineries qui furent ce que ce monsieur disait, un geste de dignité, un mouvement de dignité. Ce qui a illustré magnifiquement, merveilleusement, ce mouvement, c'est cette chanson de Craon dont on ignore toujours l'auteur, qui fut écrite sur une valse qui était à la mode à l'époque, qui était une valse lente, une chanson d'amour, et qui fut rapportée par Paul Vaillant Couturier. Alors nous voilà à Craon, petit patelin, au pied donc du chemin des Dames, au cœur même de cette formidable boucherie, dans ce tout petit village qui a été reconstruit évidemment après, qui fut entièrement rasé en ce printemps de 1916, avec les 69, combien sont-ils, 69 ou 70 habitants de ce petit patelin, et avec le maire Noël Janteur. Ils sont absolument formidables. Si vous devez un jour espérer quelque chose de votre pays, de ce pays, il faut aller à Craon. Ces 70 personnes sont extraordinaires. Ils vivent dans un endroit qu'on pourrait supposer sinistre, un endroit où on n'a pas tellement envie d'aller, dans ce quart de France qu'on évite, tant la mémoire, toujours là, prégnante, terrible, ces choses qui remontent, cette terre de France qui refuse d'avaler tout ça, qui refuse de gober ce qui s'est passé là. Eh bien, ils en sont les témoins, mais des témoins vivants, des témoins, j'allais dire gays, tout à fait, ce sont des gens gays et vivants, à commencer par leur mère, Noël Janteur. Alors, on est là, sur ce chemin des Dames, donc, et il y a quelques années, j'avais eu la chance, avec Brigitte Vincent, de rencontrer là, de me promener là, avec Yves Gibeau, que vous connaissez, qui est un écrivain, qui a écrit, entre autres, Allons enfants, qui est un plaidoyer efficace contre la guerre, mais pas comme ça, c'est pas des mots, c'est pas non à toutes les guerres, c'est quelqu'un qui vivait ça dans sa chair, avec une sensibilité magnifique qui était la sienne. Il nous avait fait l'honneur de passer quelques instants avec lui, fragile.
Alors là, on suit le chemin du vieux cimetière, on va aller sur la tombe d'Yves Gibeau, qui a désiré être enterré ici, alors que normalement il n'aurait pas dû être enterré ici. C'est parce que j'ai donné l'autorisation de l'enterrer dans le vieux crâne. Ah, oui. Oui, parce que bon ben. C'est ici.
J'ai pas compris pourquoi clairement il voulait être enterré là, Yves.
Mais c'est parce que lui, il avait une admiration profonde pour les gens qui avaient fait la guerre 14-18. Parce que je crois qu'il était un petit peu plus sensible que les autres, où il était resté, il avait gardé sa sensibilité d'homme. Oui. Et il ne comprenait pas qu'on ait oublié tous ces gars-là, tous ceux qui avaient laissé leur peau ici, qui avaient souffert, parce qu'il faut dire quand même que le chemin des Dames, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'était une erreur colossale politique et militaire. Le 16 avril 17, en 10 jours de temps, ou 12 jours de temps, on a eu entre 150 et 180 000 morts et disparus. Vous voyez,
français du côté français.
Du côté français, je parle. En 10 jours de temps. Sur une crête de 20 km, il y a eu 1 300 000 hommes de rassemblés pour mener l'attaque, si vous voulez. Donc la décision a été prise par des militaires français, par des politiques français. Donc on a rassemblé 1 300 000 hommes pour les envoyer à la boucherie volontairement. On le savait très bien. Ici, c'était une position offensive, alors on savait très bien qu'on ne pouvait pas la prendre. On ne pouvait pas la prendre. C'était impossible. Les Allemands étaient sous terre, étaient à l'abri, totalement à l'abri. Voilà. Donc, même les 400 obus en 4 ans qui sont tombés au mètre carré ici.
400 obus.
400 obus au mètre carré, d'après les statistiques, sont tombés ici. C'est le point le plus fort avec Verdun, de la guerre 14-18 et de la Somme, si vous voulez. Mais Crane, on n'en parle pas. Vous voyez, trois quarts des livres ont été interdits, hein, sur cette période-là et sur ce site-là. Ben, ils sont encore interdits. Hein. La chanson encore. De Crane a été interdite jusqu'en 74. Je crois que c'est Giscard d'Estaing, en 74, qui a levé l'interdiction de la chanson de Crane.
Mais non, c'est pas possible. Oui.
Ouais, mais oui. Gibault, il a terminé sa vie ici en revivant en symbiose avec ces gens-là, si vous voulez. Il n'avait pas d'âge, cet homme-là. Et quand on a trop creusé sa tombe, on a à peu près 40 cm de terre ici, sur à mi-montagne. Là. On est à peu près à mi-montagne. Et en dessous, c'est de la roche. Et quand on a percé pour mettre son cercueil, et on est tombé sur un obus. Je dis, c'est incroyable. Il n'avait pas éclaté, en plus. Et on était avec l'autre gars, je dis, regarde un peu le symboliquement ce que c'est. On a creusé, puis on dit, tiens, il y en a là. Et on a sorti. Et j'aurais bien aimé qu'il sache, quoi.
Mais c'est formidable, cette histoire d'obus, parce que ça veut dire que ce que vous nous dites, quand vous travaillez dans les champs, partout, inlassablement, vous trouvez des obus, vous trouvez des grenades, vous trouvez des choses qui remontent.
Ah bah oui, tout le temps. Tout le temps, on n'y pense pas, vous savez. On n'y pense pas, mais on ne pourrait pas travailler. On ne pourrait pas travailler si on y pensait. Non, mais quand on brûle les branches, par exemple, il y a certains coins, on sait, il ne faut pas brûler de branches. Nos grands-parents nous ont dit, et les gamins là-bas, surtout, ne brûlez pas. Ne brûlez pas, surtout, là-bas. Alors, quand on fait du bois, nos mères, nos grand-mères sont toujours un petit peu inquiètes, quoi, parce qu'elles se disent, ils vont faire du feu, ça va péter, il y en a en dessous.
C'est quand même le symbole de la mémoire qui remonte. Il y a quelque chose qui ne veut pas se faire oublier, quoi, symboliquement. Oui. Hein.
Enfin, moi, là, je vous parle, je ne suis pas historien, de ce que j'ai appris de bouche à oreille. Comme dans les tribus, les anciens apprennent aux jeunes. Quand vous passez une journée avec votre grand-père à côté de votre grand-père qui fait le même travail que vous arrachez les betteraves, coupez les feuilles, faire du bois, enfin, faire les clôtures, et puis que sans arrêt, il vous parle de ça. Donc, on a l'impression d'avoir vécu cette époque-là. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu. Dans ma tête, dans mon cœur, j'ai le village de Crane comme s'il est encore là. Vous voyez où on se trouve là. Puis il y a tellement de choses qui nous a raconté. Bon, c'est tellement de choses de la vie de cette époque-là. Des choses comiques et puis des choses tristes.
C'est une tombe très très modeste. Hein, c'est quelque...
ce qu'il voulait.
Ouais. Et c'est vous qui mettez le géranium?
Bah, c'est quelques amis. C'est quelques amis.
Yves Gibault, écrivain, 1915-1994.
Oui. Moi, je viens seulement pour me recueillir, pour retirer les pommes de pin, pour... Quand j'ai une bête qui se sauve et puis qui vient lui marcher sur sa tombe, j'ai pas honte de le dire. Et lui, je crois qu'il en est fier. Je viens boucher les pas malgré tout, parce que ça arrive. On peut pas raisonner les bêtes. Hein, Donc ça arrive qu'il y ait une bête qui se sauve, qui vienne le voir. Alors je lui dis, tiens, tu vois. Il vient te saluer aussi, quoi. Oui, vous savez, il est bien, là. Il est bien. Le soleil levant, vous voyez. Le soleil levant. Face à la plaine de Champagne.
C'est ce qu'il voulait, ça?
Ah oui, 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 c'est... Oui. Il voulait pas. On va se taire 2 minutes. Ouais. Vous savez, ici, c'est une drôle de solitude, hein. Il y a encore plein d'hommes en dessous, hein. Plein d'hommes partout, quoi. On n'est jamais tout seul ici. Pas seulement par le fait de la nature, mais si on a un petit peu d'attache avec son histoire.
Vous retrouvez des corps, des...
Oui, oui, oui.
Ah oui.
Oui. Ah oui, encore, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, j'en ai encore retrouvé un. Mais on peut plus les... Puis de toute façon, c'est pas dans mon esprit. Ils restent où ils sont parce que c'est là qu'ils sont. Mais si, la dernière fois, celui que j'ai sorti la dernière fois, bon, ben, les ours, ils étaient de la farine, si vous voulez. Pour dire ce que...
Les cendres.
Les cendres, quoi. Les cendres, dès que vous les touchez, poum. On a l'impression quand même qu'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que dès que vous les touchez, elles disparaissent, quoi. Faut plus les toucher, quoi. Mais par contre, j'ai retrouvé son masque à gaz, j'ai retrouvé ses chaussures, j'ai retrouvé ses lanières de... J'ai retrouvé ses boîtes de cirage, j'ai retrouvé ses grenades, j'ai retrouvé son obus qui était... Son fusil... Toute la culasse de son fusil, j'ai retrouvé son casque, j'ai retrouvé son bidon. Avec le bouchon en liège dessus. Le bidon, il est pratiquement pas rouillé. Mais vous savez, c'est une sacrée émotion quand même. Hein. J'ai beau avoir l'habitude, mais on s'habitue jamais à ces choses-là. Jamais. On est aussi perturbé que vous, si vous le découvriez, quoi. Moi, je suis à chaque fois perturbé, quoi.
Et la plaque, vous n'avez pas trouvé?
Non, on n'a pas trouvé la plaque. Non. On trouve de temps en temps, on trouve.
Alors si on a la plaque, on retrouve.
On peut retrouver la famille, on peut retrouver. Oui.
Ça s'est arrivé ça ?
Oh oui, papa, il en a sorti. Une fois, je crois qu'il en a sorti 17 au même endroit. Oh ben ici, si vous voulez, c'est... Ici, ça a été terrible, quoi. Pendant ces 10 jours-là, c'est affreux, quoi. C'est affreux, même... des fois, je préfère même plus y penser, par moi, je me dis... C'est dingue. Alors les gars, ils n'avaient pas trop à bouffer. Ils étaient pas bien... Ils dormaient jamais, hein. Quand ils étaient 8 jours au front, ces 8 jours, ils dormaient pratiquement pas. Ils étaient avec les rats, avec tout ça. Et puis, ils savaient qu'ils allaient se faire, ils allaient laisser leur peau. Hein. Là, il n'y avait pas de chichi, vous savez. Hein. Il n'y avait pas de chichi. Hein. Ouais. Bon, il y a quelques vieux, quelques anciens combattants qui sont venus terminer leur vie ici, qui nous parlaient de ça. Et dont un, Père Goujot, qu'on l'appelait. Il a perdu son œil dans une de mes terres. Il venait me voir quand je travaillais la terre. Il venait me voir. Il me dit, tiens, tu vois, j'avais 16 ans, je suis sorti de ce boyau-là. On a fait 150 mètres. J'ai perdu mon œil là, tu vois, qu'il me disait. Alors, vous savez, la journée était le quart gâché quand c'était comme ça. Non seulement parce qu'il venait me parler, je m'arrêtais parce que c'était un devoir pour moi de l'écouter. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Mais même après, vous êtes perturbé, quoi. Vous imaginez, un gosse de 16 ans qui perd un œil, qui perd une oreille, qui perd un bras.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ils étaient jeunes.
Les gamins de 16 ans, on les envoyait au combat comme ça. Ils partaient, ils me racontaient, ils partaient à 350, ils revenaient à 50, 60. Ouais. Puis ils n'avaient même pas le droit de relever leur copain, un copain qui était blessé là, qui était embourbé. Et non, c'était l'attaque. Je parle du 16 avril 17 surtout. Hein. C'était l'attaque, fallait prendre. En 48 heures, on devait être à Lens. Vous voyez, on a fait 100 mètres à peu près. Il y a 100 hommes à la minute qui tombaient ici. 100 bonhommes à la minute. Ils ont démarré à 6h du matin. Le 16 avril à 6h du matin, à 7h, il fallait arrêter. Celui qui était censé, à 7h, il fallait arrêter. Ça a duré 48 heures sans arrêt, les attaques. Puis ils ont repris. Ils ont pris le plateau que le 5 mai. Mais ils ont laissé des...
Enfin. Une des plus grandes boucheries de l'histoire, là.
Bah, je sais pas si... Hiroshima, je crois... Pour faire des comparaisons macabres qu'on ne devrait pas faire, 80 000 morts, bombe atomique. Ici, 153 000 morts, 30 ans avant. Et on n'en parle pas. Il n'y a eu aucune bataille comme celle-là. Ici, aucune dans le monde, aucune. Mais aucune. Je ne comprends même pas que... Crâne, le nom de chemin des dames, on ne devrait jamais en parler sans avoir la larme à l'œil. On a tous laissé des grands-parents... Tous.
Ouais.
Mais pas seulement des Européens, mais les Afriques du Nord, les Sénégalais. L'attaque du 16 avril, mais 3 jours avant, les Sénégalais étaient en train de s'entraîner à bord de les Mimosas, à 25 degrés à l'ombre bientôt. On les a amenés ici, il faisait moins 12. Les gars ne sont pas sortis des tranchées. Ils sont tous morts dans les tranchées. Ils ne pouvaient même pas porter leur fusil, ils ne pouvaient pas mettre la baïonnette. Gelés sur place, les gars.
La viande, quoi.
Il fallait faire l'attaque. On ne s'occupait pas des pertes. De toute façon, on ne s'occupait pas des pertes. Mais ici, Chemin des Dames, Crâne, Lafaux, Cernir-la-Noye, tous ces petits villages-là. Mais on devrait être... Le canton de Crâne, en particulier, c'est le canton qui a souffert le plus de toute la guerre. Le plus. Il n'y a jamais aucune bataille comme ça, aucune.
Et ça, c'est le côté français du côté allemand, on sait.
Ah oui, bon, c'est à peu près. Après, c'est à peu près pareil, vous savez. C'est à peu près pareil. Hein. Donc, il y a eu à peu près 300 000 morts sur 10 jours ici. D'ailleurs, les Allemands, quand ils sont partis, quand ils regardaient le chemin des dames, ils disaient c'est notre cercueil à grande échelle.
On ne devrait pas penser à eux sans une larme à l'œil, dit Noël Janteur, le maire de Crâne, autrement dit Craon, ce petit village de 69 habitants qui a donné son nom à la plus belle chanson de ce siècle. Probablement. Mais quel sens aurait cette larme ? Faut-il se dire que, la guerre, c'est... on n'y peut rien, que c'est une fatalité ? Ou bien alors que c'était la faute à Nivelle, au général Nivelle, qui était un sacré con ? Ou alors à un autre général, Mangin, ou encore à quelques bévues militaires, et puis voilà tout, il y aurait comme ça de ces hommes qui suffiraient à ce que la force de recommencement puisse quand même bel et bien être là et promettre. Et puis il y a ceux qui, à l'issue de cette invraisemblable boucherie, ont compris quelque chose. Quelqu'un comme Anatole France, qui était loin, bien loin d'être un dangereux bolchevique, même à l'époque, disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » Et cette phrase, à elle toute seule, dit bien ce que fut cette guerre. Est-ce que cette phrase a encore du sens aujourd'hui ? Très probablement. En tout cas, ça en a pour les habitants de Craon et pour Noël Janteur, le maire de ce petit village avec lequel nous nous baladons.
En 17, ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans que la guerre faisait rage. C'est bien qu'ici, on est sur un versant sud-sud-ouest. L'hiver 17 a été, de 16 à 17, c'était un hiver très très humide. Mais du fait des bombardements, tous les drainages qui avaient été faits par les anciens étaient perturbés. Et en plus de ça, tous les tranchées françaises étaient dans le fond. Donc tous les tranchées étaient pleines d'eau et de boue. Et on a fait traverser les gars. Bon, vous voyez, vous imaginez une mitrailleuse ici, il n'y avait plus de végétation aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein.
Bien sûr.
Tout était rasé, c'était ternu. Hein. Et les gars se sont partis de là-bas, de derrière la butte de Beaumarais. Et là, c'est les bastions de Chevreux qu'on appelle juste dans ce coin-là. C'est que des marais, tout ça. Donc on a fait traverser les gars dans les tranchées, avec de la boue jusqu'à la ceinture, par un froid, avec 30 kilos sur le dos. Et après, vous voyez pas, mais il y en a 1 sur 100 qui sont arrivés au pied de la montagne. Là. Vous voyez, c'est une véritable montagne, regardez.
Ouais, ouais.
Et il y a 1 sur 100 qui sont arrivés là. Mais les gars ici, ils les arrêtaient avec des pierres. Vous imaginez, il y avait des mitrailleuses tout le long. Il y avait des canons tout le long. Il y avait un réseau de barbelés tous les 5-6 mètres là. Donc ils se faisaient prendre dans les barbelés. Ils pouvaient pas avancer, les gars, c'était pas possible. Hein. Et puis bon, les Allemands qui étaient en haut, vous voyez pas la visibilité qu'ils avaient. Dès qu'il y en a un qui arrivait à passer une ligne, boum, ils tombaient. Hein. Boum.
Il va y avoir des refus, il y a bien des gars qui refusaient d'attaquer, il y a des gars qui avaient peur, qui devaient être morts de peur.
Ah, moi je serais mort de peur. J'arrive.
Ils avaient tous peur. Tous peur. Faut se mettre à leur place. Hein. Mais ils avaient tous peur. Faut pas raconter l'histoire. Alors pourquoi les mutineries sont arrivées ici ? C'est pas le fait du hasard.
Alors, hein. Les mutineries ont commencé quand ?
À partir du 16 l'échec de l'attaque du 16 avril, 17, c'est ça qui a provoqué le ras-le-bol des troufions. Des poilus.
Ça, c'est ça.
Donc petit à petit, puis ils mangeaient pas beaucoup, ils avaient plus de permission, c'était très difficile si vous voulez. Hein. Et c'est bien que quand ils sont revenus en arrière, le bois des Couleuvres, c'est juste le bois que vous voyez derrière la butte de Beaumarais là-bas, les mutineries sont arrivées, ont démarré d'ici.
Ah.
Parce qu'ils se sont dit, on ne monte plus à Crane, c'est fini, on ne monte plus sur le plateau. D'où la chanson de Crane et tout, c'est pas le hasard si vous voulez.
Et la chanson en question, on sait quand elle a été écrite, on a une idée là-dessus.
C'est dans ces moments-là, mais on ne sait pas par qui.
On sait pas par qui.
Elle était interdite de chanter. Il l'a murmuré dans les tranchées, d'après ce qu'on sait. C'était interdit. Elle était interdite de chanter, cette chanson-là. Vous savez, quand vous vous trouvez là, tout seul, vraiment dans votre milieu, parce que c'est mon milieu, puis que vous la récitez, la chanson de Crane, et puis surtout, vous pensez au gars. Vous vous souvenez, moi je me dis, quand j'avais 18 ans, à quoi je rêvais, quoi. Ouais. Et je me dis, ils rêvaient de la même façon, hein, ils rêvaient de la même chose, et puis c'est le contraire qu'on leur a demandé. On leur a pas dit tu vas vivre, on leur a dit tu vas mourir. Puis quand ils disaient quelque chose, on dit t'as rien à dire. Quand ils redescendaient, 2 heures après, 3 heures après, ils refaisaient un coup de main. Ils disaient mais ça va pas, on vient de laisser une moitié de nos copains, on va pas remonter, allez hop, fallait remonter. Mon grand-père me disait toujours, les Anglais leurs machines, les Français leurs poitrines. Vous voyez, c'est dur, hein. Les Anglais leurs machines, les Français leurs poitrines.
Un effort simultané de tous les alliés sur tous les fronts ne pourrait-il venir à bout des empires ? Les Allemands sentent venir ce danger, et au printemps, délibérément, ils reculent de quelques kilomètres sur une ligne préparée tranquillement et solidement organisée, la ligne Siegfried. C'est au fonceur Mangin que Nivelle confie le front d'assaut le 16 avril au chemin des Dames.
Mais dès le 19, il faut arrêter l'hécatombe. Mangin est relevé de son commandement le 29. Quand on veut reprendre cette désastreuse offensive, quelques régiments refusent de marcher. Et pendant quelques semaines vont se produire ça et là quelques mutineries. Devant ce sinistre plateau de Craonne, les soldats murmurent. Et le plus poignant, le plus authentique des chants de combattants se répand malgré les interdictions.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on a laissé sa
peau. Donc, quand vous étiez môme, le grand-père, inlassablement, vous racontait cette histoire, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu.
Oui, oui. Mais pas seulement de la guerre 14-18, si vous voulez. Il parlait aussi beaucoup de la reconstruction après, de la vie après, et puis de la vie avant. C'est-à-dire que la guerre 14 s'est inscrite dans leur vie comme un destin, quoi. À la limite, on se demandait même si c'était, pour eux, c'était même pas un accident, c'était inscrit, comme on dit. C'était inscrit. Ils ont vécu la guerre 14 comme quelque chose qui était inscrit, qu'ils devaient vivre. Et quand ils l'ont raconté comme ça. Comme quand on est une page, on vient au monde, on vit, on est heureux, on est malheureux et on meurt. En fin de compte, ils racontaient leur vie comme ça, avec ces 7 accidents-là qu'il y avait eu, un accident collectif, quoi, qu'ils l'avaient bien supporté collectivement. C'est pour ça, quand même, que la mémoire qui se transmet de bouche à oreille a son importance, à mon avis.
C'est la mémoire, il y a la mémoire, ouais, et puis il y a l'histoire, qui sont des choses.
L'histoire, nous, c'est une ligne continue, notre histoire, si vous voulez, de la même. Ce qui se transmet de bouche à oreille, c'est une histoire continue. Tandis que la grande histoire, c'est des pointillés à côté, quoi, si vous voulez.
Ouais.
Donc on bouche les trous avec notre histoire, nous. Si vous voulez, pour nous, c'est une histoire qui est continue.
Chanson interdite que cette chanson de Craonne. Il faut savoir qu'il y a une récompense qui avait été promise, offerte à qui dénoncerait le ou les auteurs de la chanson de Craonne. L'état-major avait promis 1 million de francs or et surtout la démobilisation immédiate à qui dénoncerait le ou les auteurs. Et jamais personne n'a dénoncé le ou les auteurs de ces paroles, de cette chanson, ce qui montre assez la solidarité dont les hommes ont fait preuve dans cette détresse, dans ce naufrage extraordinaire. Il y a un bas-relief dans une des nombreuses grottes ou des alentours où un bidas
à un poilu a dessiné un navire qui sombre comme ça. Et sur le navire, il a écrit « Ma jeunesse ». Et c'est cette jeunesse qui sombre dans des flots de sang. Cette conscience revenue, cette dignité qui revient à travers les mutineries, c'est évidemment... ce qui nous émeut et ce qui nous étreint aujourd'hui en revenant sur ces endroits où nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont souffert, considéré qu'ils étaient comme moins que viande. Quelqu'un qui est très sensible à ça, c'est un garçon comme Yves Follen. Il est passionné par tout ce qui s'est passé là, mais pas passionné par les petits soldats de plomb et les machins et les armées qui avancent, qui reculent, les fronts, etc. Ce qui a un côté parfois assez abject au fond. Mais lui, non, il extrait du sens de tout ça. Il est passionné par tout ça. Il est veilleur de nuit. Il n'arrête pas. Oui, il n'arrête pas d'extraire, voilà, du sens. Pour aujourd'hui, Follen.
J'ai l'impression que cette guerre de 14, en fin de compte, on a l'impression que c'est une guerre qui a été voulue quelque part, que ça a été préparé tranquillement. Les hommes politiques ont avoué qu'ils auraient pu l'éviter, cette guerre. C'est une guerre économique, en fin de compte, quelque part. C'est terrifiant à dire. Mais quand on voit le nombre d'obus qui ont été fabriqués, le nombre de balles, de grenades et tout ça, il y a des gens qui ont fait des fortunes immenses avec ça. Immenses. Au prix de la vie des fermiers, des agriculteurs. La fin de la guerre de 14, c'est la fin de l'ancienne époque, c'est le début de l'ère moderne, il faut le dire, c'est ça. Il y a un changement qui se fait, il y a de nombreux poètes qui ont senti ce changement. On le voit bien aussi dans le film La Grande Illusion, où il y a la fin d'une caste, la fin d'une époque, et il y en a qui ne veulent pas survivre à ça. Ils veulent mourir là parce qu'ils sentent que tout change. Après, la France, l'Europe, le monde n'est plus pareil après la guerre de 14-18, c'est fini.
Vous êtes jeune, vous passionnez pour cette histoire. Quelle est votre motivation? Pourquoi?
Parce que j'ai l'impression qu'on va tourner une page et je ne veux pas que ces gens qui sont morts de l'Isère à la Suisse soient morts pour rien et je ne veux pas qu'ils meurent une deuxième fois. Je me dis, derrière chaque tombe, il y a l'histoire. Il y a une femme, un père, il y a peut-être des enfants, il y a quelque chose. Et tout ça s'est perdu. La valeur de l'être humain, qu'est-ce qu'on en fait de la valeur de l'être humain? Prenez simplement un exemple qui est très très loin à Gallipoli. Les Australiens ont attaqué une position turque, ça s'appelait le neck, le cou. Ils les ont fait charger avec des fusils, baïonnettes, 100 balles. C'était un projet de M. Winston Churchill qui voulait attaquer donc le ventre mou, entre guillemets, de l'Europe, attaquer les Allemands en gros par derrière, quoi. Et bon, c'est quelque chose qui a complètement loupé parce qu'on a mis des mauvais généraux, etc., etc. Et en fin de compte, on a fait broyer la fine fleur, entre guillemets, de l'Australie là-bas pour... presque rien, mais la nation australienne est née là-bas.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu, ici, durant cette guerre de 14, massacrer un peuple, le peuple? C'est votre idée?
Oui, tout à fait. Regardez, j'ai des cailloux de la plage de Gallipoli, ici, comme symbole.
Ah, des cailloux que vous sortez de votre petit sac.
C'est mes amis australiens qui me l'ont envoyé, parce que pour eux, c'est tout. Et je pense à tous ces Français qui sont morts là-bas tout le temps. Parce que nous aussi, on a envoyé des gens là-bas et qu'on n'en parle pas. On n'est pas très loin de la guerre en dentelle où les grands regardaient les petits se massacrer pendant quelques heures et on recommençait le jour suivant. C'est toujours un peu comme ça. Pourquoi les Américains sont entrés en guerre? On dit officiellement à cause de ces torpillages, de cette histoire du Lusitania, etc. C'est pas vrai. Les Américains sont entrés en guerre parce que les services secrets américains ont intercepté des messages codés entre l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade du Mexique. L'Allemagne envoyait des armes et de l'argent au Mexique pour que le Mexique attaque le Texas. C'est encore une histoire de territoire
géopolitique.
Les Américains sont venus mourir en France. Les Américains perdent en 10 mois de leur grande guerre plus d'hommes que pendant toute la guerre du Vietnam. 116 000 tués. 116 000 tués. Les
Australiens, combien?
Les Australiens perdent 60 000 hommes.
Grande-Bretagne?
1 million.
France?
La France?
1,3 million.
Officiellement. Mais on sait très bien qu'il y a des thèses dans les années 30, des thèses pacifistes qui disent...
Allemagne?
1,7 million.
Russie?
2 millions. Enfin, mais là aussi, c'est très difficile de dire parce que le pays est tellement vaste.
Partout. Canada?
Ils perdent en moyenne aussi 60 000 hommes, à peu près.
Total des pertes, Italie?
Il y a 8 000 Sud-Africains aussi. Il y a 300 Maoris.
Venus nous 300 Maoris qui viennent mourir ici, oui.
Mais c'est complètement fou. Parlons des Chinois, il y a un acte qui est signé entre le gouvernement britannique et le gouvernement chinois le 31 décembre 1916 qui donne droit donc à des travailleurs chinois de venir combattre, enfin de venir aider l'armée britannique derrière parce que les Anglais n'ont plus d'hommes à mettre en première ligne, donc ils ont besoin de main d'œuvre. Ils vont chercher en Chine des Chinois qui viennent de Chine du Nord. Ils les prennent, ces gens-là, en fin de compte, ils sont contents de partir parce que les conditions de vie en Chine à cette époque-là, c'est l'esclavage. Mais ils sont pris, ils sont mis dans des bateaux, c'est l'esclavage qui recommence, c'est les négriers qui recommencent. Ils meurent par centaines dans les bateaux, à fond de cale. Ils débarquent à Rouen, ils vont servir à nettoyer les champs de bataille. Ils vont mourir jusqu'en 1921 et peut-être même après. On n'en sort plus de cette guerre de 14, elle est toujours là. Et si vous voulez, il y a 2000 Chinois qui meurent. C'est une guerre où... C'est effrayant, c'est effrayant. Il y a un type en 14 qui a repris la longueur de mon corps. Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est? C'est de la terre, ça.
C'était un reportage avec Raïssa Blankoff dont nous retrouverons la suite demain. Première diffusion le 7 novembre 1997. Merci à Noël Janteur et aux habitants de Kron, ainsi qu'à Yves Follen, Marc Perron et Denis Tuvery. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, réalisation Koyan Guyenne et Franck Adhérer, assistante Agnès Le Botte, chef du répondeur Marina Touyez. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. À suivre Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
La société Bourbon aurait payé 150 000 dollars pour la libération des trois otages français enlevés au large du Nigeria. C'est ce que révèle le site internet du Point. Les otages enlevés le 21 septembre dernier ont été libérés hier et semblent en bonne santé. Deux autres Français ont été enlevés dans la même région lundi avec cinq autres personnes. Les enlèvements sont fréquents dans cette région pétrolière du delta du Niger. Dans le sillage de Lula, la présidente élue du Brésil, Dilma Rousseff, qui prendra ses fonctions en janvier, critique la politique du dollar faible. Elle accompagne Lula au sommet du G20 à Séoul. Dilma Rousseff dénonce le protectionnisme camouflé des États-Unis. La faiblesse du dollar avantage les produits américains et pénalise notamment les pays émergents. La guerre des monnaies est l'un des principaux thèmes du sommet qui s'est ouvert il y a quelques heures. Et les États-Unis sont sur la sellette après la décision de la Réserve fédérale d'injecter 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Le G20 risque de déboucher au mieux sur un accord à minima pour s'engager à rééquilibrer les échanges commerciaux. Dans les rues de Séoul, quelques 3000 manifestants ont défilé contre la tenue du sommet, étroitement encadré par autant, sinon plus, de policiers. Le bilan de l'épidémie de choléra s'alourdit en Haïti à 724 morts, dont 4 à Port-au-Prince. 11 000 malades ont été hospitalisés. 143 migrants sans papiers entassés dans un camion-citerne. C'est la découverte faite par la police grecque dans le Péloponnèse, dans le sud du pays. Le camion se dirigeait vers le port de Patras qui relie la Grèce à l'Italie. La majorité des migrants ont déclaré être afghans. Chacun avait payé autour de 3000 euros pour le voyage. 6 passeurs ont été arrêtés. Deux disparitions dans le monde du spectacle. La comédienne Simone Valère, partenaire à la ville et à la scène de Jean de Sailly, s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Sous la houlette de Jean-Louis Barrault, le couple avait participé au renouveau théâtral de l'après-guerre avant de diriger plusieurs théâtres, dont celui de la Madeleine. Et puis le producteur de cinéma italien, Dino De Laurentiis, est mort à Los Angeles. Il avait 91 ans. Son nom reste associé à l'âge d'or du cinéma italien. Il avait produit Rossellini et Fellini, mais aussi Guerre et paix de King Vidor, ou encore Les Trois Jours du Condor avec Robert Redford. Alerte aux très fortes vagues en Bretagne. Un avis émis par Météo France à partir de 16h cet après-midi et jusqu'à demain matin entre Penmar et Perros-Guirec. Il est donc conseillé de rester au chaud et d'éviter les promenades au bord de la mer. À l'arraché et après avoir sauvé 2 balles de match, Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Victoire extrêmement serrée face à l'Espagnol Fernando Verdasco. Et est-ce qu'il y aura un deuxième Français en quart peut-être, puisque la rencontre entre Mikael Jodra et le tenant du titre Novak Djokovic vient de commencer, Fabrice Abgral.
Il y a très précisément 16 minutes et les deux joueurs sont dans le premier set. Mikael Jodra, 34e mondial, Novak Djokovic, le numéro 3 et vous l'avez dit, le tenant du titre. Et pour l'instant, 2 jeux partout entre les deux joueurs. Mikael Jodra est actuellement service pour tenter de mener 3-2. Une rencontre bien particulière entre ce Serbe et ce Français, puisqu'évidemment, il y a en toile de fond la finale de la Coupe Davis, début décembre à Belgrade. Alors forcément, on est un petit peu plus attentif pour cette rencontre. Mikael Jodra est sur le court et dans la tribune, évidemment, Guy Forget, le capitaine de l'équipe de France. Spectateur très attentif, évidemment, de cette rencontre. Mikael Jodra, pour l'instant, tient son rang. C'est une opposition de style entre les deux joueurs. D'un côté, Mikael Jodra, le serveur volleyeur, un attaquant invétéré. Et de l'autre, Novak Djokovic, on le connaît, c'est un attaquant de fond de court extrêmement redoutable. Pour l'instant, match très équilibré entre les deux joueurs. Aucun des deux joueurs n'a perdu sa mise en jeu et aucun des deux ne s'est procuré pour l'instant la moindre balle de break. Mikael Jodra qui tente donc de rejoindre Gaël Monfils en quart de finale. Gaël Monfils qui a dominé Fernando Verdasco en 3-7, 6-7, 7-6, 7-5 au terme d'un match de 2h45, un match acharné que finalement Gaël Monfils a remporté. Gaël Monfils qualifié pour les quarts de finale, il rencontrera le vainqueur du match qui opposera tout à l'heure Andy Murray à Marine Cilic. Merci Fabrice Abgral, France Inter.
Merci Fabrice Abgral et on suit bien sûr le match cet après-midi dans le flash de 17h.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
30 août 95, un Mirage français est abattu au-dessus de la Bosnie. Les deux pilotes qui ont réussi à s'éjecter sont sans doute prisonniers. Mais 6 semaines plus tôt, c'était le massacre de Srebrenica et tout est lié.
Tous les samedis à 13h20, rendez-vous avec X. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon et son carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Oui, il convient de célébrer l'armistice, bien sûr, la fin d'un gâchis considérable. Et on nous dit qu'il n'y a plus de poilus du tout, c'est bien triste, mais leur mémoire est toujours bien présente, et ça c'est réconfortant. Par exemple, celle de Maurice Maréchal, violoncelliste, qui avait été appelé au combat, qui a vécu les tranchées, et puis avec l'aide d'un ami, il a pu continuer à jouer de son instrument, parce que un copain d'infortune, qui était menuisier, lui avait construit avec des planches de caisses de munitions, un instrument tout à fait rustique, vous l'imaginez. Et Maurice Maréchal n'a pas pour autant perdu sa joie de vivre. Ce bourguignon né à Dijon, d'ailleurs, est resté et devenu encore plus après la guerre un violoncelliste qu'on se demandait dans le monde, qu'on s'arrachait dans le monde entier et qui avait cette belle sonorité généreuse, large, sensuelle, inimitable. Voici donc la sonorité et l'art de Maurice Maréchal dans une élégie fameuse de Jules Massenet.